Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Exil Expérience. Je suis Camille et j'ai la chance de prêter ma voix pour aller à la rencontre d'exilés volontaires pour partager au travers de mon micro leurs témoignages. Alors, dans cet épisode avec Farah Dattaï, nous allons parler d'entrepreneuriat social, mais surtout de comment révéler les talents qui viennent d'ailleurs. Toute l'équipe d'Exil vous souhaite une belle écoute. Bonjour Farah, et merci de bien vouloir te prêter à cet exercice un peu inconfortable de parler derrière un micro où on sait que c'est enregistré. Donc vraiment merci beaucoup de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter, voilà, en quelques mots, dire ce que tu as envie de sur toi, sur ce que tu fais, aux auditeurs qui nous écoutent?
Bonjour Camille, merci pour ton invitation. Du coup, moi, je m'appelle Farah Dattaï. Je suis originaire de Kaboul. Et ça fait un peu près 7 ans que j'habite en France. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'incubateur de Singa à Paris. Singa, c'est une association internationale, mais surtout un mouvement qui favorise les rencontres entre des nouveaux arrivants et des locaux en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Espagne et au Canada. Et on fait ça notamment à travers notre réseau des incubateurs. Donc on accompagne les entrepreneurs nouveaux arrivants se lancer dans leur société d'accueil, mais aussi les entrepreneurs locaux qui offrent pour l'inclusion des nouveaux arrivants au sein de la société.
Merci pour cette présentation. Alors tu interviens, tu es un intervenant dans le cadre de l'Exil Expérience. De quoi tu nous as parlé lors d'une table ronde, il me semble? Quel était ton sujet ou le message clé que tu avais envie de transmettre lors de cette table ronde?
Oui, donc la table ronde sur laquelle j'ai intervenu, ça s'appelle Légende d'entrepreneur.
Légende d'entrepreneur.
Et en gros, on a parlé comment la culture autour de l'entrepreneuriat a changé autour des dernières années. Et aussi comment l'entrepreneuriat peut être l'un parmi d'autres outils pour transformer la société dans le sens positif. Et donc, à ce niveau-là, on a parlé de l'impact social et sociétal que les projets entrepreneuriaux peuvent créer. Et dans mon cas, j'ai partagé mon expérience en tant que responsable de l'incubateur Singa et l'accompagnement que j'ai fourni aux entrepreneurs depuis les dernières 3 ans. À la fois des avancées, des améliorations et des nouvelles initiatives qui sont mises en place pour soutenir ce type de projet, mais aussi des freins, beaucoup de freins qui existent toujours et qui rendent la vie des entrepreneurs, notamment sociaux, difficile et que ça les empêche à développer leur projet.
Donc toi, tu es un homme de terrain, de ce que j'entends. Et bon, j'ai déjà échangé avec toi en dehors de ce micro, donc je sais que tu es un homme de terrain, tu accompagnes des vrais entrepreneurs. Et toi, tu vois des choses, donc des avancées, des choses positives qui se font, mais aussi des freins. Tu as même dit beaucoup de freins. Donc, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns, à la fois quelques-uns des freins, peut-être ceux que tu vois le plus, et quelles sont les belles avancées qui te semblent importantes à partager?
L'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure qui est plein de beaucoup d'enjeux, beaucoup de moments où on se sent bloqué, que le projet n'avance pas et on se pose la question, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai lancé le projet. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu à travers les entrepreneurs que j'ai accompagnés. Et ça, c'est pour plein de raisons différentes, que ce soit des barrières administratives, accès au financement ou autre. Et c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde, mais d'autant plus si tu es nouvel arrivant. J'ai accompagné plein d'entrepreneurs qui avaient difficulté à avoir accès à un compte bancaire pour leur société. Et ça a presque coûté leur projet. Pour certains, c'était enjeu, le point de blocage à cause duquel ils n'ont pas pu lancer leur projet. Et au-delà de ça, il y a de codes de travail à apprendre, la manière de parler, le vocabulaire, si tu as participé à telle et telle école ou pas. Donc il y a plein de barrières à ce niveau-là, qui sont à la fois générales, mais il y a des barrières plus particulièrement pour des entrepreneurs nouveaux arrivants. Je passe la barrière linguistique qui est très très importante, qui peut créer beaucoup de points de blocage pour lancer le projet, pour développer le projet. Il y a tous ces freins-là. Et au-delà de ça, avoir accès au marché du travail, c'est quelque chose qui est compliqué pour les nouveaux arrivants. On a un taux de chômage chez les nouveaux arrivants qui est deux fois plus que les locaux. Donc ce chiffre, ça montre aussi à quel point c'est difficile pour les nouveaux arrivants d'accéder au marché du travail. Si tu as un non étranger à avoir accès au financement, ça devient beaucoup
bien
plus
sûr
compliqué que voilà. Donc il y a tout ça qui se rajoute à des freins existants. Mais en même temps, un chiffre intéressant chez Singa, c'est que la plupart des boîtes lancées par des entrepreneurs nouveaux arrivants ont un meilleur taux de survie que des projets lancés par des locaux. Et je n'ai pas des études scientifiques, mais peut-être le fait que le chemin d'exil, c'est tellement dur et que tu te développes des compétences et un niveau de résilience qui peut après te servir pour ton projet entrepreneurial.
C'est ça, persévérance, hein, j'imagine.
Donc,
ouais,
je fais le lien comme ça, mais je pense qu'il doit y avoir... un lien entre quelqu'un qui a vécu un parcours d'exil et comment ça peut être transféré pour un projet entrepreneurial.
Je pourrais faire la même hypothèse que toi. En tout cas, quand j'entends ce chiffre, je me dis oui, sûrement que ça doit être lié à ça. En tout cas, ça peut être une des pistes. C'est intéressant.
Alors que la plupart des 40% des nouveaux arrivants en France sont surqualifiés pour les jobs, le travail qu'ils font.
Leurs diplômes ne sont pas reconnus ou leur expérience n'est pas reconnue en France.
Tout à fait. Il y a toutes ces barrières-là. Et d'un côté, c'est à cause de toutes ces barrières-là que les nouveaux arrivants s'orientent vers l'entrepreneuriat pour créer leur propre emploi.
C'est intéressant en même temps.
C'est intéressant, mais en même temps, ça peut être décevant dans le sens où l'entrepreneuriat ne peut pas être la solution pour tout.
Tous.
Donc, il faut faire attention à ça. Et nous, chez Singa, c'est notre métier d'accompagner et faire en sorte que l'entrepreneur réussisse dans son projet, mais on est bien conscient que ce n'est pas la seule manière de se lancer dans sa vie professionnelle. Donc c'est aussi quelque chose qu'on aimerait changer au niveau de culture de l'entrepreneuriat, les indicateurs de réussite qu'on a mis en place, et ce n'est pas forcément combien de chiffres d'affaires tu as, combien de fonds tu as levés. Il y a d'autres indicateurs sociaux et environnementaux qui sont aussi importants que le chiffre d'affaires. Et c'est quelque chose qu'on aimerait mettre et qu'on aimerait accompagner les projets, le mettre dans leur ADN de projet, parce que c'est beaucoup plus simple de y penser quand le projet n'est pas lancé que quand le projet a été déjà lancé. Il faut faire une transformation. Et en termes de développement, il y a aussi des choses, des initiatives qui sont mises en place, et surtout par la société civile, par les acteurs de terrain, mais aussi d'autres initiatives niveau européen, niveau national, qui sont mises en place. Mais on est encore toujours très loin d'avoir ces indicateurs comme les réflexes automatiques. Ce ne sont pas bien intégrés. Il y a toujours beaucoup d'acteurs qui pensent de l'entrepreneuriat purement économique, performance des collaborateurs, combien de chiffres d'affaires. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire sur de sensibiliser et même aller plus loin que ça et d'accompagner les entrepreneurs, mais aussi des boîtes déjà existantes.
Oui. Le jour où l'indicateur économique aura la même valeur qu'un indicateur social, ce sera beau, j'imagine.
C'est ça le idéal, ouais, social et environnemental. Le jour quand on arrive là, c'est qu'on peut dire qu'on est arrivé où on voulait arriver.
Alors, tu utilises le mot « nouvel arrivant ». Je vois que tu l'utilises assez souvent. C'est quoi pour toi un nouvel arrivant, en tout cas qu'on partage le même vocabulaire, puis avec ceux aussi qui nous écoutent? C'est quoi le type de population que vous allez, vous, accompagner, que toi, tu accompagnes au quotidien? Est-ce que tu as, je sais pas, plutôt des hommes, des femmes? C'est ma curiosité, mais qu'est-ce que tu mets derrière « nouvel arrivant » ?
Oui, donc chez Singa, on utilise le terme « nouvel arrivant », « nouveaux arrivants ». Plutôt que migrants, réfugiés, parce que malheureusement, les termes migrants, réfugiés, sont tellement connotés négativement que ça suffit juste de taper réfugié sur Google et les images que tu vois. Chez Singa, on utilise le mot nouveau, nouvel arrivant, parce que c'est un terme qui réduit pas la personne à son statut juridique, et c'est aussi, ça englobe toutes les personnes qui sont arrivées en France récemment, et donc ce sont des gens qui viennent de nationalités différentes de partout dans le monde. Il y a des hommes comme il y a des femmes. Donc sont des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, donc mais en termes de différence d'âge, on a
oui, ça veut aussi des différences d'âge. C'est vrai que dans mon imaginaire, mais j'imaginais plutôt des personnes jeunes, je ne sais pas pourquoi, mais en fait non, du coup pas forcément. Oui, ah ouais, oui. Intéressant.
L'entrepreneur, j'ai accompagné les entrepreneurs qui avaient 19, 20 ans jusqu'à 65, 70 ans.
Ah ouais.
Donc en termes de variété d'âge, il y a beaucoup de variété. En termes de type de profil, des gens qui viennent avec des parcours très différents. Et chez Singa, on accompagne à la fois des projets associatifs et des projets d'entreprise.
Okay.
Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir, parce que quand on dit incubateur, on pense direct start-up,
ouais, c'est
entreprise,
vrai.
Mais
start-up, levée de fonds, on imagine déjà.
Mais chez Singa, on en a cette particularité-là, et c'est aussi dans tous les secteurs d'activité.
Okay.
Parce que quand on dit incubateur, encore une fois, on pense au projet tech,
ouais.
Alors que chez Singa, on a des projets dans la restauration, dans le culture, dans l'art, dans le tech aussi, mais pas quand. Et on accompagne les entrepreneurs sur des phases de maturité différentes dès que quelqu'un a une idée. Donc ça, c'est un programme de 3 mois, ce qu'on appelle idéation, pré-incubation, pour valider l'idée de ton projet, pour voir s'il y a vraiment de place au sein du marché pour trouver sa proposition de valeur. Et dès que ce parti-là est fait et que la personne, la participante, est sûre de lancer son projet, deuxième phase d'incubation, c'est la phase de lancement de projet pendant 6 mois. On accompagne les entrepreneurs avec des formations collectives, un programme de mentorat, des mises en visibilité, mises en réseau, un espace de coworking à Paris qui s'appelle Kiwanda.
Okay.
Et beaucoup de suivi individuel par moi-même et mes collègues. Et pour des projets qui sont déjà avancés, qui ont un certain niveau de chiffre d'affaires, qui veulent passer à l'échelle, on a un programme d'accélérateur. Donc
ouais.
Ça c'est pour des entreprises qui étaient déjà passées par l'incubateur pour certains il y a quelques années. Et là, l'idée c'est de
étape d'après, grandir.
Tout à fait.
Ah ouais.
Donc voilà, donc on a un programme d'accélérateur qui accompagne les entrepreneurs et les projets dans cette phase-là.
Oui, une des questions que j'aimerais bien te poser, j'imagine que le travail, en tout cas dans mon imaginaire, on passe beaucoup de temps au travail, donc le travail, ça doit être un levier d'insertion dans la vie hyper important, en fait, pour ces personnes-là. Et tout à l'heure, tu disais, c'est celles qui ont le plus de mal à trouver du travail. Elles ont même, des fois, elles prennent du travail où elles sont sous-qualifiées, du coup, elles montent leur boîte. Et j'imagine que l'existence de Singa, c'est aussi pour ça, en tout cas une partie, c'est pour favoriser l'inclusion.
Tout à fait. Donc, chez Singa, notre corps de métier, c'est l'incubateur d'accompagner les entrepreneurs. Mais on ne se limite pas à quoi à ça. Il y a tout un travail de plaidoyer à faire autour de l'inclusion des nouveaux arrivants. Que ça soit en termes social ou professionnel. Ça a déjà changé le regard sur la migration, contribue à ça. Mais on travaille aussi concrètement avec des entreprises qui sont sensibles aux questions d'inclusion des personnes réfugiées, qui sont prêts à avoir des talents réfugiés au sein de leur équipe. Et c'est à la fois le travail de sensibilisation, mais aussi de l'accompagnement, parce que l'inclusion, ça ne termine pas qu'en embauchant des personnes
oui.
réfugiées. C'est un parcours tout au long de carrière de quelqu'un qui rentre au sein
Bien
de
sûr.
La boîte. Donc, il y a pas mal de savoir-faire qu'on partage avec des entreprises qui sont sensibles sur le sujet, et on aimerait faire ça de plus en plus avec d'autres entreprises qui prennent au sérieux le sujet de l'inclusion des nouveaux arrivants. Et au sein de nos programmes, par exemple le programme de pré-incubation, une bonne partie des participants se rendent compte à la fin du programme que l'entrepreneuriat n'est pas vraiment quelque chose qu'elle aimerait faire. Et à ce moment-là, on réoriente vers d'autres acteurs sur le terrain pour d'autres projets que les participants peuvent avoir, que ce soit reprise d'études, trouver un emploi. Et sur ça, il y a pas mal d'acteurs qui sont déjà sur le terrain avec qui on travaille, certains qu'on a déjà accompagnés. Là, elles sont...
Oui, convaincues, là.
Voilà, donc la campagne, les participants des programmes chez Singa, après trouver de l'emploi. C'est moins le cas pour le programme d'incubation et encore moins pour le programme d'accélérateur. Mais on ne se limite pas juste à ça. Et sur ça, ce qui est important, c'est qu'on en a déjà fait. Il y a des entreprises qu'on a accompagnées qui ont embauché des personnes réfugiées. Et le fait que la diversité au sein d'équipes contribue à créativité, à productivité au sein des équipes, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement et par plein d'études par des instituts différents. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va mettre en valeur après pour pouvoir aller plus loin et pour convaincre d'autres entreprises qui ne sont pas encore sensibles au sujet Donc c'est le travail, on va dire, est à la fois au niveau très opérationnel, mais aussi plus large que ça, niveau plaidoyer, changement de regard et aussi changement de culture autour de inclusion des nouveaux arrivants.
J'entends aussi pour toi l'accompagnement très terrain des personnes qui sont là et en même temps la volonté de faire ce plaidoyer, d'ailleurs tu utilises ce mot-là, hein, plaidoyer, sensibilisation, de faire évoluer les regards de la société, des entreprises sur l'accueil, l'accueil et le talent. J'aime bien cette phrase que tu as dite au début, hein, comment révéler des talents qui viennent d'ailleurs. Moi, c'est d'extérieur, je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait faire dire non à, je sais pas, un dirigeant ou une dirigeante, c'est-à-dire il y a un talent qui vient, enfin qui vient d'ici ou d'ailleurs, c'est un talent, c'est une compétence, c'est un être humain. Quel frein, toi, t'as entendu qui revient, ou alors, au contraire, quand vous en parlez, il y a peu de freins?
Il y a beaucoup de freins pour des personnes réfugiées à rentrer dans le marché du travail. Et je dirais qu'une grosse partie de ces freins vient de méconnaissance de la part des recruteurs, que ce soit au niveau administratif ou autre. Mais il y a aussi beaucoup de peur de l'autre.
Oui.
Il y a des recruteurs qui ont des préjugés sur des gens qui viennent d'un pays spécifique, et ça rajoute, dès lors que tu as un nom qui est difficile à prononcer, il y a même des études que tu as moins de chance à être sélectionné, même pour la première phase d'un entretien d'embauche, si tu as un nom qui est difficile à prononcer ou un nom étranger. Donc il y a tout ça, et pour ça, c'est important que les rencontres soient facilitées. Et c'est aussi l'un de nos missions principales chez Singa, de favoriser et faciliter des rencontres pour que ces barrières soient cassées, que ce soit dans notre incubateur ou dans le programme qui était né au sein de Singa, qui s'appelle J'accueille, qui facilite l'hébergement citoyen pour des personnes réfugiées chez les habitants. Et c'est à travers ces instances-là que les barrières sont cassées. Mais pour revenir sur le sujet de recrutement et accès au marché du travail, il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire pour casser ces barrières-là et pour montrer que, en fait, la plupart je crois que c'est 50% des personnes réfugiées ont des études supérieures. C'est pas le cliché qu'on a sur des personnes réfugiées, mais c'est une statistique assez intéressante. Et les personnes réfugiées, elles viennent avec leurs études, leur talent, et aussi une manière différente de voir des choses.
Et oui, clairement.
Et ça enrichit la société. Et
nouvelles idées, créativité, meilleure performance.
Je pense notamment à un projet qu'on a accompagné il y a quelques années. Raïs est un entrepreneur syrien qui a passé pas mal de temps en Syrie, là où sa boîte là-bas, dans le ramassage de déchets métalliques.
Okay.
Et il vient en France, elle remarque que le ramassage des déchets métalliques existe pour des grosses quantités, pour des entreprises, mais pas pour des particuliers.
Okay.
Et donc c'est quelque chose qu'elle faisait en Syrie, et pour lui... C'est une évidence.
Oui, c'est ça.
Donc, elle lance son projet et ça marche super bien. Et là, elle s'est installée à Paris, mais aussi dans d'autres région en France. Donc son projet a le double impact environnemental, mais aussi elle embauche des gens qui sont éloignés de l'emploi. Donc à la fois impact social et environnemental. Et cet exemple pour montrer que quand tu viens d'ailleurs, tu as des idées qui sont nouveaux, qui sont différents et qui peuvent enrichir et qui peuvent contribuer au développement de la société.
Et c'est intéressant ce que tu dis sur, enfin tout ce que tu dis, mais si je dois prendre un fil parce que faire des choix dans ce podcast, j'aurais envie de tirer tous les fils. Mais en fait, tu dis, il y a un des problèmes qui est un des problèmes, je pense, très connus en fait à l'échelle, j'allais dire planétaire, mais si on revient sur la France, qui est la peur de l'étranger, qui fait du coup freiner et qui crée pas d'opportunités. Et donc, le besoin et votre mission de sensibiliser, tu dis la sensibilisation, elle passe par la rencontre. Ça paraît si logique et si essentiel de dire, bah oui, il faut se mettre autour d'une table ou pas d'ailleurs, mais juste se rencontrer en tant qu'humain et discuter et voir qu'en fait, ce qui nous relie, c'est peut-être d'être être humain d'abord. Et puis, c'est pas tant notre pays, mais on a plein d'autres idées, plein de complémentarités. Mmh. Ça paraît d'une logique implacable. Et en même temps, je vois la difficulté sur le terrain de créer ça, en fait.
N'importe qui peut devenir mentor, à condition que tu étais prêt à accompagner l'entrepreneur sur son projet, mais aussi d'apprendre de l'entrepreneur sur sa culture, et même d'autres sujets sur lesquels l'entrepreneur peut partager son expérience avec son mentor. Donc on est toujours dans cette logique-là, selon la spécialité de chacun, selon le domaine de travail de chacun. On peut mentorer un entrepreneur pendant 6 mois. C'est des rendez-vous mensuels pour suivre l'avancement de projet, pour donner des conseils, pour ouvrir son réseau. Et pour être là pour l'entrepreneur dans le développement de son projet, un engagement moins engageant, on va dire, c'est d'être expert sur le sujet de son expertise et de apporter ça à l'entrepreneur, par exemple, l'expertise sur la communication, sur
le modèle de financement, j'imagine.
Tout à fait, ouais. De trouver des financements, de travailler sur son business plan, son modèle économique. Donc, il est tout ce parti-là. On a aussi un programme d'échange de langue, donc pour ceux qui veulent améliorer son français. Donc, il y a pour certains des entrepreneurs, elle veut continuer à améliorer son français. Et c'est un vrai besoin et un vrai barrière. Donc, il y a aussi ce programme-là sur lequel c'est sur la base des échanges assez, on va dire, informels autour d'un café ou même virtuel, en raison de plusieurs fois par mois. Donc, il y a ce parti-là où il y a aussi la possibilité pour ceux qui n'ont pas de temps de contribuer dans ces manières-là, mais qui aimeraient contribuer à la mission, c'est toujours possible de faire un don, parce que Singa, c'est une association, et sur l'ASO, on a la page où les gens peuvent faire un don. Mais là, j'ai parlé de Cad Singa, mais je pense que pour chacun, selon où il habite et les initiatives qui existent sur place, aujourd'hui, c'est surtout grâce aux technologies. Il y a plein de manières différentes à contribuer à la mission des associations qui aimeraient bouger les lignes, qui aimeraient rendre la société plus inclusive. Donc, s'engager, ça ne veut pas forcément dire se lancer dans l'entrepreneuriat, lancer un projet associatif, ça peut être aussi simple que...
Boire un café et parler en français.
Voilà, tout à fait.
Super, merci. Alors, question un peu, pas à part, mais plutôt là sur toi, ton ressenti de cette semaine d'exil à Exil Expérience. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager là derrière le micro à nos auditeurs pour qu'ils puissent aussi goûter à qu'est-ce que c'est que cet événement qui dure 5 jours? Toi, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu y as trouvé?
Je dirais que c'était... si je résume en 3 mots, c'était spirituel, c'était inspirant et je pars avec plein d'idées, plein d'énergie. Mais surtout, ça m'a permis de rencontrer des gens formidables. Donc, les intervenants, je trouve qu'ils sont de qualité. Donc, j'ai appris plein de choses à la fois inspirantes, mais aussi très pratiques que je peux appliquer dans ma vie quotidienne. Je pars de l'expérience exil avec beaucoup d'énergie et des liens que j'ai créés, que je vais continuer à nourrir encore plus pour voir des possibilités, des projets qui peuvent être mis en place ensemble.
Super, merci beaucoup.
Merci à toi, Camille.